Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les routes en Afrique. C'est le continent qui a le réseau routier le moins développé du monde, avec 7 km de « goudron » entre guillemets pour 100 km carrés. Résultat, le transport d'un conteneur de Kampala à Mombasa, Kampala en Ouganda, Mombasa au Kenya, coûte deux fois plus cher et prend deux fois plus de temps que le transport de Londres à Mombasa au Kenya. On va aussi parler de la qualité des routes, trop vite défoncées par les camions surchargés, trop peu contrôlées. Un record relevé au Mali pour un poids lourd, pour un poids total autorisé de 51 tonnes. Un poids lourd a été pesé à 133 tonnes. Les routes africaines sont aussi les plus mortelles du monde. Et que dire de ce que l'UEMOA appelle pudiquement les perceptions illicites? Alors comment améliorer le réseau routier subsaharien? Les bailleurs de fonds investissent suffisamment dans le développement des routes, en prêts, en dons. Près de 163 millions d'euros pour aménager la route cotonnière au nord-ouest du Bénin, Djougou-Banikora, 210 km. Il faut 10 heures actuellement à un camion pour parcourir ces 210 km. On va en parler avec nos invités, experts, bailleurs de fonds, constructeurs. Bonjour Jérôme Lombard.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des systèmes de transport et de mobilité des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest à l'Institut de Recherche pour le Développement, c'est l'IRD, et Paris 1, Panthéon, Sorbonne, l'université. Amakoe Adoleoume, bonjour à vous.
Bonjour Manuel.
Vous êtes économiste des transports, directeur général du CITRAS, c'est un laboratoire de recherche Solidarité Internationale sur les transports et la recherche en Afrique subsaharienne. Stéphane Carcas, bonjour.
Bonjour.
Chef de projet transport à l'Agence française de développement, l'AFD. Vous êtes un petit bailleur de fonds comparé à, par exemple, l'Union européenne, forcément, hein, vous êtes en bilatéral.
On va le dire comme ça. On n'est pas si petit que ça.
Vous nous en parlerez. On sera en ligne avec un constructeur de route d'Embasso, de la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE. Et chez vous, les voisins, dites-nous quelles sont les tracasseries que vous vivez sur les routes, quels progrès aussi. N'attendez pas la fin de l'émission, surtout pour nous appeler et questionner nos invités au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Ne laissez plus de messages audio maintenant, on est en direct, appelez-nous directement. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Mohamed est à Moroni aux Comores. Je travaille à la direction générale des routes et du transport routier, nous dit Mohamed. Les routes des Comores commencent à prendre un nouvel élan. 80% des routes nationales sont enrobées. Ça réduit beaucoup les accidents. L'année dernière, plus de 80% des accidents étaient dus à la dégradation des routes. Souleymane, étudiant, il est à Koudougou au Burkina Faso. Il y a quelques progrès au Burkina, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'état des routes est déplorable. Certaines régions ne sont même pas reliées par une route bitumée. Vrai, faux, Jérôme Lombard ?
Oui, c'est vrai. Le Burkina est en position centrale en Afrique de l'Ouest parce qu'il est bien connecté à tous les pays voisins. Mais entre la capitale et certaines régions, il y a quelques problèmes.
Stéphane Carcas.
C'est vrai, je suis d'accord avec Jérôme Lombard. D'un autre côté, il est vrai aussi qu'il ne faut pas confondre le bitumage. Le bitumage, ce n'est pas la panacée. Parfois, une piste en terre bien entretenue peut tout à fait assurer le service de transport.
Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir trop de routes parfois au Burkina, mal placées
au Burkina ou ailleurs. Encore une fois, le bitumage, ça coûte cher. C'est très cher à entretenir par la suite. Et je pense donc qu'il y a certaines régions, tout aussi importantes que d'autres, pourraient tout à fait être très bien reliées par une, voilà, par une piste en terre très bien entretenue, ouais, qui durera plus longtemps et qui assurera le même service.
Intéressant, on va bien sûr en reparler des bons choix stratégiques, hein, sur le réseau routier. Un voisin au Cameroun nous poste ce message, on ne peut pas parler de route chez moi, il y a des sentiers avec des nids d'éléphants. Je précise que la Banque africaine de développement vient d'octroyer un prêt de 17 millions d'euros pour un périphérique routier ça sera dans le nord-ouest, hein, 355 km pour la Ring Road en liaison avec la frontière nigériane. Ça s'étale d'ailleurs sur un plan beaucoup plus large de financement des infrastructures au Cameroun, à Makoé. Un commentaire sur le Cameroun, à Makoé à Doléoumé.
Oui, notre collègue qui parle des nids d'éléphants au Cameroun. Effectivement, le problème des routes, c'est un peu la problématique des grands axes et des petits axes. Les grands axes, une fois qu'on les a construites, il faut les entretenir parce que la construction, c'est le côté le plus facile de l'affaire. On a un financement et un ingénieur, on peut construire une route. Maintenant, il faut maintenir la route en l'état.
Est-ce que le Cameroun est largement sous-doté par rapport à la dynamique économique, par rapport à la population ou pas ?
Par rapport à la population, par rapport à la dynamique économique, on peut toujours dire que c'est sous-doté, mais le minimum qu'on a, si on arrive à l'entretenir, je crois qu'on peut s'en sortir.
Moussa Conakry nous dit ici en Guinée, il n'y a pas de route, mais de bonnes pistes. D'ailleurs, moi je salue au passage l'association des blogueurs de Guinée à Blogui qui a lancé l'année dernière une campagne qui a été très très relayée sur les réseaux sociaux. Hashtag montrons nos routes. Et évidemment, on a vu le pire, parfois le meilleur, mais surtout le pire. Jérôme Lombard.
Bah sur la Guinée, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire sur le Burkina Faso, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés d'un point à l'autre pour se rendre vers la capitale, alors que à l'intérieur de certaines régions, il y a 100 km de bitume parfait.
Donc et ça, pourquoi alors près de la capitale, bah ça pose autant de problèmes?
D'abord parce que le trafic est plus important au fur et à mesure sur le grand axe qui mène, qui traverse toute la Guinée d'ouest en est, et puis, au fur et à mesure qu'on s'approche de la capitale, évidemment, le trafic augmente. Et à l'inverse, sur certaines portions internes à des régions, il y a dû y avoir un contrat avec une société. On a fait 100 km. Et puis le trafic n'est pas du tout à la hauteur de ce que cet axe pourrait supporter. Quoi,
ouais, on le voit bien, la logique n'est pas toujours au rendez-vous hein, dans les choix. Un auditeur nous parle de la Centrafrique, son pays, et il nous dit c'est une catastrophe, on fait quelques mètres sur une route et puis après plus rien, que de la poussière. C'est impossible d'avancer. Dernier message, Dian au Sénégal, moi je vis en Casamance. Les routes sont mal construites, les paysans ont beaucoup de mal à transporter les produits vers la ville. Stéphane Carcasse, Sénégal, ça a pas mal progressé.
Oui, Sénégal, je pense que c'est un pays qui est doté d'un bon réseau routier. Nous, à l'AFD, on connaît bien la situation dans Dakar. On a financé il y a quelques années l'autoroute urbaine de Dakar, qui s'est accompagnée d'ailleurs d'investissements dans les quartiers avoisinants de cette autoroute pour améliorer la voirie et la vie des habitants. Et je pense que c'est un projet qui a changé la vie des habitants. C'est un projet urbain. Et qui est important à péage, mais je crois à un niveau acceptable de ce que l'on entend. Oui. Les trafics sont supérieurs à ce qui avait été estimé avant le projet. Et je pense que c'est vraiment le genre de projet de voirie urbaine qui change la vie des habitants, parce que c'est une autoroute qui s'adresse à un motif domicile-travail, donc quotidien.
Ouais, alors rappelez-nous les voisins d'ailleurs si vous trouvez que cette autoroute à péage dans la région de Dakar est trop chère. Hein, on aimerait bien avoir votre avis. 33-1-84-22-71-71. On accueille un auditeur bourgeois qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour bourgeois.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs hérétiques.
Alors, quelle est la situation chez vous, bourgeois ?
Ah, je viens d'entendre partout en Afrique, c'est la même chose au Tchad. Entre N'Djamena et les provinces, c'est terrible, mais à l'intérieur de N'Djamena, même les voies sont tellement dégradées. J'aimerais parler avec vous de l'avenue Taïwan qui est dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena.
L'avenue Taïwan,
oui. Cette voie est... Oui, l'avenue Taïwan. Cette voie est tellement dégradée à tel enfin que c'est pratiquement difficile de passer dedans. Moi, je suis l'un des usagers de cette route, mais c'est tellement difficile. Beaucoup d'embouteillages, beaucoup de nids de poules et boitiers. Il y a des flaques d'eau partout. C'est une voie construite il y a 16 ans, mais tellement que c'est dégradé. Personne n'en parle maintenant et le gouvernement même s'en soucie pas. C'est difficile pour nous qui pratiquons cette voie chaque jour, quoi.
Mais oui, mais vous en parlez justement. C'est bien qu'on vous entende en direct, bourgeois. Et c'est intéressant parce que bien sûr, il y a beaucoup d'embouteillages parce qu'il y a beaucoup de voitures. Mais une route en mauvais état, évidemment, ne fait qu'accumuler, ne fait que empirer les embouteillages. On est bien d'accord parce qu'il faut slalomer pour éviter les nids de poules, les énormes flaques d'eau, etc. Et donc pour du transport de marchandises, c'est d'autant plus compliqué. Stéphane Carcasse.
Oui, moi si. Alors, je ne connais pas l'avenue dont parle notre auditeur. J'ai vécu à N'Djamena il y a une vingtaine d'années. Je sais que le réseau routier s'est amélioré dans ce pays, notamment entre la capitale et certaines capitales régionales comme ça, Rumundu. Donc, je ne connais plus la situation à N'Djamena.
La
N'Djamena.
Capitale économique aussi.
Voilà. Mais ceci étant, plus généralement, je pense que ce qu'on dit depuis le début de cette émission, ça tourne autour de deux choses. Un, c'est l'entretien. Et deux, c'est ce qu'on appelle le niveau de service. Trop souvent, je pense qu'il y a un discours qui est de dire on va bitumer toutes les routes d'un pays de la même façon. On va vouloir faire le même type d'investissement. Et je pense que c'est une erreur stratégique profonde parce que les ressources financières sont limitées et il faut faire des priorités. Je pense que c'est le propre d'une politique publique en la matière.
Justement, on va en parler. Merci beaucoup, Bourgeois, de nous avoir appelé pour cet état des lieux précis, ciblé, l'avenue Taïwan dans le 7e arrondissement à N'Djamena qui pose un vrai problème. On a quand même beaucoup d'actualités et de grands chantiers en route avec de très grosses sommes décaissées. J'en ai cité quelques-uns par les bailleurs, essentiellement d'ailleurs en prêt pour construire de nouvelles routes. C'est une des priorités de l'Union africaine de faciliter le commerce intra-africain, la libre circulation des personnes et des biens. On va le voir, c'est pas exactement le cas. On parlera du racket. Est-ce qu'une route aujourd'hui peut vraiment développer la richesse d'un pays et de ses habitants, sortir les habitants de la pauvreté, Jérôme Lombard?
La route, ou du moins la connexion avec un autre pays ou avec une ville voisine, permet de faire circuler des marchandises, permet aux usagers d'utiliser un transport collectif. Et d'une certaine façon, dans le monde contemporain d'aujourd'hui, y compris en Afrique, l'Afrique est complètement intégrée à la mondialisation. Les sociétés, les économies ont besoin de ces axes parce que ça développe d'une certaine façon les échanges, la connexion.
Mais on a des exemples précis où quand la route arrive, ça change tout.
Eh bien, d'une part, la route, quand elle arrive, elle permet, la route ou la bonne piste, Stéphane Carcasse a tout à fait raison, elle permet déjà de concentrer sur la route, par exemple, des populations qui vont venir s'agglomérer le long, créer des hameaux, créer des commerces, etc. Donc il va y avoir un changement incontestable. En même temps, peut-être que ce qui se passe le long de la route, des peuples, ce qui se passe, vous voyez, ce qui se passait auparavant à l'intérieur, donc il faut mesurer tout ça.
Vous parliez des pistes à Makoé, à Doléoumou, mais on peut rouler aussi vite sur une bonne piste bien entretenue que sur une route bitumée?
Ah ouais, on peut rouler sur une bonne piste bien
entretenue.
Parce que
moi personnellement,
sur une
piste,
route bitumée en mauvais état.
Oui,
il vaut mieux avoir.
J'ai jamais
une
roulé
piste
à 110 km/h sur une piste, ou à 100 km/h.
Ouais, mais est-ce que on a besoin de rouler à 110 km/h sur des routes africaines?
On va poser la question aux auditeurs. Voilà, tiens, ils vont répondre.
Ils vont répondre. Moi, si on peut me garantir du 80 km/h de bout en bout, moi je signe tout de suite.
80 km/h de moyenne.
Moi, si on me
ça
donne
peut suffire.
Ça, moi je signe.
Je pense qu'il n'y a pas de chiffre vrai. Encore une fois, tout dépend du niveau de service que vous voulez avoir. La route, c'est pas une infrastructure, c'est un service. Pour répondre à la question de tout à l'heure, moi, je pense qu'une route à elle seule n'apporte pas le développement économique. Elle est fatalement indispensable dans certains cas. Même si on parle beaucoup de climat aujourd'hui et qu'on entend parfois développer le service routier, ça va à l'encontre des objectifs du climat. Nous, on pense quand même qu'il faut continuer à assurer, bien sûr, un service routier en Afrique comme ailleurs.
Absolument.
Mais c'est pas la route à elle seule qui va apporter le
sur l'emploi,
il faut
par exemple,
développer
sur l'emploi
apporte,
des jeunes.
Oui, ça apporte des emplois, certains types de travaux routiers qui sont très favorables à l'emploi local. Aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas croire que je vais bitumer une route, hop, les trois villages à côté vont se développer. Il faut assurer un service de transport qui va se développer dessus, des entreprises. Ouais. Il faut s'assurer qu'il y a des pôles économiques qui doivent être liés. C'est pas suffisant à elle seule.
Je
pense que c'est important de le dire.
Vous continuez à traverser sur des routes bitumées des régions entières où il n'y a pas d'électricité à côté. Donc vous voyez, on a un décalage flagrant.
Les routes comme facteur de paix, on le voit bien. Il y a des investissements dans la région sahélienne et on voit bien pourquoi quand même. Est-ce que réellement ça peut être un facteur de paix ou au contraire ça facilite les échanges, y compris les mauvais échanges?
Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a de réponse universelle à cette question. Moi, je crois beaucoup à l'importance des échanges, que ce soit les échanges de personnes. Pour nous, la route, ça permet aussi un lien social. C'est un mot un petit peu à la mode, mais important. Moi, je crois beaucoup à ça, notamment en milieu urbain, mais pas qu'en milieu urbain. Alors oui, il peut y avoir des échanges dommageables, je dirais.
Ils auraient existé sans la route.
Tout à fait.
Ils auraient existé sans la route. Ils existent sans la route.
Ce que vous appelez les échanges dommageables, la circulation des terroristes, par exemple.
Hein. Oui, ou des armes, ou des trafics de drogue, il n'y a pas besoin de route.
À l'heure actuelle, les grands corridors là, qui posent problème, au regard de la demande de services et de la fréquentation de ces corridors, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut donner des exemples géographiques là ? L'Afrique centrale a quand même un taux de bitumage... trop bas par rapport à la fréquentation exigée. Où est-ce qu'on en est exactement ? Qui veut répondre à cette question, Amakoé ?
Oui, mais sur les grands axes, sur les grands corridors, moi je dirais pas que le problème se pose à ce niveau-là sur les grands axes. Les grands axes sont en général les axes qui sont bitumés. C'est le bas de la hiérarchie.
Si on prend le corridor Alger-Lagos.
Ouais, mais il n'y a pas de corridor Alger-Lagos. On ne peut pas dire
ça, voilà.
On ne peut pas dire qu'il y a un corridor Alger-Lagos. Bon, les axes pour le moment qui servent au commerce et aux échanges dans la sous-région, c'est des axes qui partent si on prend l'Afrique de l'Ouest, qui partent d'Abidjan, qui va à Bamako, Ouaga, voilà, qui part de Lomé, qui va à Ouaga,
entre capitales.
Voilà.
Alors justement, on
n'a
pas parlé encore des pays enclavés. Voici le message WhatsApp d'un voisin qu'il a posté du Niger.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Je suis Maman Mohamed. Je lance un appel au gouvernement nigérien en rêvant de se revoir au sujet des tronçons Tawa-Arlit. Vraiment, la route n'est pas du tout praticable. C'est cette route-là qu'on appelle la route de l'uranium. La route n'est pas goudronnée. Vraiment, je lance un appel au gouvernement et à ces deux cas-là de se revoir au sujet de cette route. Les gens souffrent vraiment sur cette route. Voilà.
Alors, la route de l'uranium, elle pose problème ou pas ?
Bah moi, pour moi, elle pose problème. Dans la mesure où on ne devrait pas transporter l'uranium sur une route, quoi. C'est ça le problème.
Bon, alors là, on va refaire un autre débat.
on va retomber sur le rail.
On ne doit pas transporter des minerais et du lourd.
C'est le spécialiste des transports qui
parle. C'est un vrai problème. Je veux dire, à partir de là, on revient à la surcharge dont on parlait. Qui va dégrader les routes ? Et donc, d'une certaine façon, après
Il y a donc des marchandises qui ne sont pas faites, selon vous, pour être transportées par voie routière et qui devraient être...
Tout ce qui est lourd et plus de 500 km, ça devrait être sur le rail.
Voilà.
Ouais. On pourrait dire la même chose sur le ciment, sur les grumes. Dans 30 ans, 84% de la population d'Afrique subsaharienne va vivre en ville. Il faudra donc acheminer des marchandises. 30 ans, c'est demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout ce qu'il faut pour acheminer ce qu'il faut vivre pour vivre en ville.
J'élargirais peut-être la question, si je peux me permettre. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des corridors qui posent problème ? Moi, je partage l'avis de mes deux collègues. Je répondrais que je pense, quand on fait une analyse économique de projet, que ce soit un projet routier ou autre, c'est le trafic quand même, qui fait le fait qu'on atteint une bonne rentabilité économique d'un projet. Où est le trafic ? Que ce soit en Afrique ou ailleurs, il est en ville. C'est les villes qui croissent aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'attention qui doit être portée, notamment sur la voirie urbaine, tout ce qui est carrefour, entrée de ville.
Absolument.
C'est ça qui va améliorer la circulation
dans
les quartiers. La circulation et la vie quotidienne des gens. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire par ailleurs, mais je pense que sur les grands corridors, comme on dit, qu'on ne trace pas à coups de trait sur une carte, entendons-nous bien, mais encore une fois, un corridor, c'est un service de transport qui est identifié entre un pôle économique et un autre. C'est ça, un corridor de transport. À mon avis, c'est surtout là, encore une fois, l'entretien qui doit être assuré. Je dirais que s'il y a des choses nouvelles à faire, c'est surtout en milieu urbain, dans les grandes capitales africaines où la croissance est énorme.
Et dans les alentours, bien sûr.
Quand je dis en milieu urbain, c'est urbain et
périurbain.
Alors,
vous disiez, il faut aussi une certaine densité de circulation pour rentabiliser une route. Mais en même temps, plus il y a de densité, plus on la dégrade. Et c'est tout le problème sur le continent africain. Vous nous appelez, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. Quel est l'état des routes chez vous ? Quelle tracasserie ? Quel progrès aussi dans votre pays ? Appelez-nous surtout dès maintenant.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Un voisin à Dakar, Pape, nous appelle pour poser des questions à nos invités. Bonjour Pape, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Pape, vous avez deux questions, je crois, on vous écoute.
Voilà, j'ai deux questions. Ma première question, c'est d'abord, est-ce que les bailleurs veillent-ils sérieusement au détournement d'objectifs sur le financement des infrastructures ? Ils ont un droit de regard, je veux dire.
Pourquoi vous posez cette question, Pape ?
Oui, parce que moi, je me dis que si aujourd'hui ces bailleurs veillaient vraiment au nom de tout moment des objectifs de ces des financements, aujourd'hui l'Afrique serait décollée sur en matière d'infrastructure routière. Parce qu'on a vu des sociétés fantômes avec l'accession de nouveaux présidents et vraiment des sociétés fantômes, des gens qui ne connaissent absolument rien sur ces infrastructures. Et maintenant, ces présidents-là, le copinage, donne ces constructions aux nouveaux venants. Donc, c'est ce qui fait vraiment que l'Afrique ne décolle pas en matière d'infrastructure.
Alors, on a un bailleur de fonds dans le studio, même si ce n'est pas le premier bailleur de fonds des routes, on est bien d'accord, l'AFD, hein, mais l'Agence française de développement, par exemple. Déjà, qu'est-ce que sur ces 10 ou 15 dernières années, vous avez financé pour combien de routes en prêt? Et qu'est-ce que vous avez exercé comme contrôle sur ces financements?
En ordre de grandeur, sur les 15 dernières années, jusqu'à 2017, l'AFD a consacré à peu près 3 milliards d'euros sur les routes, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne, donc 2 milliards. C'est à la fois peu et beaucoup. Sur les deux dernières années, 2017-2018, c'est 900 millions. Alors, concentré dans quelques pays, parce que je rappelle quand même que ce n'est pas l'AFD qui décide à elle seule où à investir. Hein. On répond à une demande des gouvernements. Donc, quelques pays du continent nous ont demandé des financements, ce qu'on a octroyé. Les contrôles, j'irai rapidement sur deux choses. Encore une fois, on veut s'assurer avec les gouvernements qui nous empruntent de l'argent que le projet a du sens. Encore une fois, qu'on n'investisse pas 200 millions pour un trafic de 30 véhicules jour. Je le fais exprès de le dire comme ça. Donc il faut vérifier que l'argent que consacre le gouvernement pour cette politique publique répond à un vrai besoin social et économique. Et ça, c'est tout le travail que l'on fait en amont de notre octroi de financement avec les gouvernements. Le deuxième contrôle, si je peux appeler ça contrôle...
Une fois que l'argent est décaissé.
Voilà, si je comprends bien la question de notre auditeur sur les entreprises de construction, eh ben là, on exerce dans tout le processus d'appel d'offres, qui est conduit par les gouvernements, hein, jamais par l'AFD, on exerce un contrôle avec eux pour s'assurer qu'au bout,
avec
l'entreprise,
avec les gouvernements,
que l'entreprise qui va gagner l'appel d'offres a effectivement les capacités de construire l'infrastructure
donc,
en question.
Ça, c'est un contrôle tout au long. Donc ça veut dire qu'il faut que les gouvernements eux-mêmes aient une volonté politique de contrôle des dépenses.
Tout à fait, absolument, ils l'ont généralement.
Vous n'avez pas de contrôle indépendant en marge et parallèlement à l'action des gouvernements.
Le gouvernement est ce qu'on appelle maître d'ouvrage, c'est lui qui décide, et il y a un contrôle indépendant en ce sens que dans tous ces grands projets d'infrastructure, il y a un acteur qui s'appelle un maître d'œuvre, qui est la personne qui va contrôler les travaux et qui est un organisme extérieur au maître d'ouvrage et extérieur à nous. Généralement, nous le finançons, mais le maître d'ouvrage peut le financer aussi.
On est d'accord quand même, on va quand même pas tourner autour du pot, que tout ce qui est bâtiment, travaux publics, c'est les auditeurs le soulèvent tout le temps.
Oui.
Amakoué Adoléoumé.
Oui. Sur ce point-là, il ne faut pas qu'on se cache non plus.
Il y a
un problème de gouvernance dès lors qu'on parle des projets de travaux publics en Afrique. Parce qu'il y a des milliards qui sont en jeu.
Mais pas qu'en Afrique.
Donc il y a des milliards qui sont en jeu. Il y a des problèmes de gouvernance.
Mais on pourrait parler des ronds-points en France.
Donc on ne peut pas le nier. Il y a ça, mais ce sur quoi moi j'aimerais qu'on intervienne, une fois qu'on aura soulevé le problème de gouvernance, qui existe, parce qu'on a vu des infrastructures qui sont construites pendant la période de garantie, la route est déjà dégradée. Donc ça, c'est un problème. Donc ça, on peut dire que le travail a été mal fait par l'entreprise de construction, mais aussi l'un des aspects sur lesquels intervient l'UMOA en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est le problème de la surcharge, ce que Emmanuel a soulevé au début de l'émission. Si on a une réglementation qui dit aux véhicules 51 tonnes réglementaires, on trouve un à 133 tonnes, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper après. Si la route construite pour durer 15-20 ans, au bout de 3 ans, elle est déjà dégradée, il faut recommencer l'opération. Alors que cette opération aurait dû être faite au bout de 15 ans, on l'a fait au bout de 3 ans. Donc voilà, c'est ça. Il y a le problème de gouvernance et le problème de surcharge où on conjugue deux effets négatifs ensemble.
Et la gouvernance est liée au problème de surcharge, puisque la problématique, l'enjeu, c'est d'organiser des contrôles de poids à l'essieu, hein, essentiellement pour les camions, hein, ce qui pose problème, on est d'accord, ce qui défonce les routes à l'heure actuelle. C'est bien, Jérôme Lombard, c'est bien les camions, c'est le transport de marchandises.
Oui, principalement parce que les surcharges sont énormes. Attention, la surcharge, elle a, quand on discute bien avec les transporteurs, la surcharge a une raison d'être. Hein. C'est que les prix sont tellement bas de transport, les prix de transport sont tellement bas que les transporteurs et les chauffeurs aussi, qui ont une certaine indépendance vis-à-vis de leur patron, tentent de surcharger. Tout ça peut être quand même un peu plus contrôlé, peut-être, gouverné, comme dit mon voisin.
Un poids lourd, ça abîme la route comme 30 000 à 50 000 véhicules, hein, on dit généralement. Même pas surchargé, hein, je veux dire. Donc c'est bien les poids lourds qu'il faut contrôler.
Ouais. Alors, à l'heure actuelle, il y a des stations de contrôle dans la plupart des pays.
Ouais, le problème, en vrai, notamment comme moi, là, je travaille là sur l'Afrique de l'Ouest, au niveau des pays de l'UEMOA, c'est un point sur lequel travaille l'UEMOA. Donc, des pays tels que le Sénégal, il y a un bon maillage des stations de pesage sur le territoire. En Côte d'Ivoire, on en a 7, 8, au Togo, on en a. Bon, dans les différents pays, il y a des stations de pesage qui se mettent en place.
Il y a des stations de pesage. Après, reste à savoir qu'est-ce qui se passe dans ces stations de pesage.
Oui.
Je redonne la parole à notre auditeur, Pape, à Dakar, parce que vous avez une deuxième question, Pape, pour un constructeur, je crois, notamment. On vous écoute, Pape.
Oui, Emmanuel, moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui les groupes industriels utilisent-ils les bons produits, c'est-à-dire les produits de bonne qualité, quoi. Quand on voit qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, on dit que cette route qui a été construite va durer 10 ans ou bien 15 ans, et au bout de 3 ans, les routes s'effritent. Donc il y a toujours un problème, est-ce vraiment ces industriels-là
Alors, vous posez une bonne question, pas parce qu'effectivement, il y a le problème du poids des camions, mais on peut aussi se poser la question sur les revêtements. On est en ligne pour vous répondre avec un constructeur de route, la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE. Bonjour, Dembasso.
Bonjour, madame.
Vous êtes directeur technique à la CSE, vous vous occupez de la zone Sénégal, Mali, Burkina, Niger. Est-ce que vous pouvez répondre à votre concitoyen Pape qui vous posait la question, est-ce que les constructeurs utilisent de bons produits, de bons revêtements sur les routes en Afrique? Comment se fait-il qu'elles se dégradent si vite?
Bonjour, madame. Donc, pour répondre un peu à Pape, disons d'abord que les routes, il y a plusieurs types de routes. Il y a des routes qui sont en industrie superficielle, qui sont dimensionnées pour des durées de 7 ans à peu près, et des routes en enrobée dense, béton bitumineux, pour 15 ou 20 ans. Bon, ces routes, effectivement...
Alors évidemment, selon qu'on choisit l'enduit superficiel ou l'enrobée dense, c'est pas le même prix. Ça peut varier de quoi? Du simple au double ou beaucoup moins pour les gouvernements?
Du simple au triple, au moins.
Du simple au triple.
C'est pas la même chose.
Ah oui,
voilà,
d'accord.
Donc l'enduit superficiel et le bébé, c'est pas la même chose. Et les routes aussi se dégradent. On a remarqué, c'est surtout sur certains grands corridors. Bon, on a remarqué, par exemple, au Mali, c'est le corridor Bamako vers Dakar, les qui sont détériorés. Le Niger, c'est le corridor vers Cotonou, Lomé. Le Burkina, c'est le corridor vers Lomé, Cotonou. Donc, c'est les grands axes où il y a les poids lourds. Donc, les détériorations sont dues en grande partie à la surcharge des camions. Bon, la qualité.
Est-ce que ça veut dire aussi que on n'a pas suffisamment, les gouvernements n'ont pas choisi des options suffisamment coûteuses pour résister au fort trafic de camions sur ces grands corridors routiers?
En fait, c'est un choix technique et financier. Les grands corridors, il faut faire une structure assez solide. Donc, d'habitude, ce qu'on fait pour résister, c'est la grave bitume et le bébé. Donc, il faut faire une structure solide pour résister au trafic. Aussi, il faut contrôler la charge à l'essieu des camions, parce qu'on a remarqué sur certains corridors, au lieu d'être à 13 tonnes à l'essieu, les camions sont à 15 tonnes, 17, voire même 20 tonnes à l'essieu. Donc, ce n'est pas le même dimensionnement.
Au lieu de quoi au lieu de 13 à 15 tonnes tolérées, c'est ça, hein, selon les revêtements.
Au lieu de 13, on est à 15 à 17 tonnes à l'essieu. Donc, on dimensionne avec une charge des camions à 13 tonnes à l'essieu. Donc, les dégradations dont parle le Pape, bon, il peut y avoir plusieurs causes. Donc, je disais la surcharge des camions, la qualité des matériaux mis en place.
En gros, vous nous dites, c'est pas de votre faute. Si le gouvernement nous a pas donné suffisamment d'argent pour faire un revêtement dense, un enrobé dense, c'est évident que la route va tenir beaucoup moins longtemps. Et s'il y a un enrobé dense, qu'on a mis le maximum de pognon, comme diraient certains, hein, pognon de dingue, eh bien à ce moment-là, de toute façon, si les camions sont surchargés, ça ne durera pas suffisamment longtemps non plus. C'est ça, hein, si j'ai bien compris, Dembasso.
C'est bien ça.
Alors, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des innovations, des pistes d'innovation pour permettre une meilleure tolérance du poids des camions?
Bon, je pense que surtout en Afrique de l'Ouest, ils ont mis des postes de contrôle, des postes de pesage.
Non, mais je parlais des innovations technologiques pour vous, les constructeurs, sur les enrobés.
Les innovations techniques, c'est au niveau de la structure. Donc, effectivement, sur certains enrobés dans certains pays, on met des enrobés à module élevé. Donc, c'est des produits, des additifs qu'on met dans les enrobés pour que l'enrobé résiste plus longtemps. C'est en train d'être fait au Burkina Faso, je sais. Donc, c'est pour que l'enrobé résiste très longtemps aux armirages et à l'usine. Donc, c'est des enrobés à module très élevé. C'est des innovations techniques que les gens sont en train d'appliquer en Afrique de l'Ouest.
J'ai lu quelque part que le groupe suisse Lafarge-Holcim avait des projets de route en ciment. C'est imaginable?
Si.
Les routes en ciment coûtent extrêmement cher. Donc, en Afrique, pour l'instant, on met les routes en ciment dans les zones où le sol est très, très, très humide, dans les traversées de marécages ou des sols instables.
Ah oui.
Mais c'est vraiment une structure qui n'est pas très employée, sauf dans les aéroports et autres.
D'accord.
Oui, non, mais techniquement, le véhicule que Emmanuel a décrit au début de l'émission en disant 133 tonnes, on peut construire une route pour que ce véhicule...
Ça, c'est ce qui a été revu au Mali, mais c'est un cas extrême quand même.
Ah non, mais les véhicules au-delà de 100 tonnes, il y en a encore beaucoup sur le terrain. Donc, on peut construire une route...
Transport de ciment, notamment.
Transport de ciment, des matériaux de construction, de la ferraille, voilà. Donc, on peut construire une route pour ces véhicules-là. Mais une fois qu'on aura construit cette route-là, il n'y a plus d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux.
Ah, ça, c'est clair.
Donc... il faut faire un choix. On ne peut pas mettre sur 1000 km de financement pour permettre à un véhicule de 100 tonnes de circuler.
Une petite chose peut-être très rapide. On ne parle que du revêtement, hein, c'est-à-dire les quelques centimètres au-dessus de la route. Il ne faudrait pas laisser croire à nos auditeurs que tout est fait par ces petits centimètres. La construction, c'est d'abord tout ce qu'il y a en dessous. On ne va pas faire de cours de route, mais c'est comment vous gérez l'eau pendant la construction, comment vous faites vos terrassements et ensuite le revêtement. Ce n'est pas parce que vous allez mettre 2 cm de plus que votre route va durer très longtemps. Ça, c'est la construction. Et encore une fois, après, il y a la construction, puis l'entretien, puis le contrôle des charges. Je ne pense pas que le revêtement soit la panacée.
Dernière question d'Embasso, je ne sais pas si vous êtes très objectif. Bon, vous êtes un constructeur subsaharien, il y a des constructeurs chinois qui sont omniprésents, des constructeurs français, marocains, turcs. Des auditeurs nous disent que les routes construites par les Chinois ne sont pas solides, vrai, faux. Quel est votre regard d'Embasso?
Je pense en gros ce qu'il dit, c'est la réalité. En Afrique de l'Ouest, les routes construites par les Chinois ne sont pas plus durables, pas plus longtemps que celles construites par 26 atomes, par CEC ou par les autres entreprises.
Mais pourquoi? Parce que normalement, il y a un cahier des charges. Le gouvernement a donné son chèque aux constructeurs chinois avec un cahier des charges très précis. Alors ça veut dire quoi?
Bon, ça veut dire beaucoup de choses parce que parfois, ces routes-là sont financées par le gouvernement chinois et réalisées par des entreprises chinoises. Donc c'est pas des appels d'offres. Et quand ils gagnent les appels d'offres, en tout cas, le constat est là. On ne peut pas avancer plus loin, mais en tout cas, le constat est là. C'est que ces routes construites par les Chinois durent moins longtemps que celles construites par CEC ou pour les entreprises maghrébines ou l'entreprise française, ça tombe qu'on connaît bien dans la sous-région.
Merci Dembasso, vous êtes directeur technique à la CSE, vous occupez donc de la zone Sénégal, Mali, Burkina, Niger. Ceci dit, quant à bailleurs comme l'AFD prête de l'argent pour construire des routes, ça veut dire qu'il y a automatiquement un constructeur français?
Pas du tout. Depuis plus de 15 ans, l'AFD, comme beaucoup d'autres bailleurs, on est ce qu'on appelle délié, c'est-à-dire que tous nos financements vont à des entreprises ou des bureaux d'études de toute nationalité.
Et il y a un appel d'offres
Il y a un appel d'offres fait par la maîtrise d'ouvrage que nous contrôlons de bout en bout. Et je rajoute par rapport au sujet qui a été dit tout à l'heure, nous contrôlons chaque décaissement de chaque euro également.
Je voudrais lire le message de Driss à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il nous dit aujourd'hui, le centre-ville de Korogo, ma ville, est bitumé. C'est incroyable, les retombées économiques. Mes parents arrivent à écouler leurs produits vivriers. Voilà, on vous donne la parole. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On est en direct sur RFI chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On parle des routes aujourd'hui en Afrique. Dans quel état sont-elles? Quelles tracasseries? Quels progrès aussi dans votre pays? On accueille une voisine qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Madeleine.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue Madeleine. Vous avez mené une expérience, vous avez fait la route avec un camionneur au Gabon sur 300 kilomètres, c'est ça?
À peu près 546 kilomètres, Lastourville-Libreville, oui.
Donc à l'est, hein, Lastourville jusqu'à Libreville, 300 kilomètres. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 300 kilomètres?
Alors, on va dire que c'est un peu plus de 300 kilomètres, on est à peu près à 540 kilomètres.
Ah, d'accord.
Alors, on a été ralenti par 22 contrôles exactement.
22 contrôles en 500 kilomètres.
Hein, 22 contrôles, exact. Ouais. Alors, donc, entre les agents de contrôle, Emmanuel, les eaux et forêts et la douane, on a perdu des sous, on a dû donner de l'argent, à peu près 70 000 francs. Pour un trajet de 540 kilomètres qui serait normalement, à cause de l'état des routes justement dégradées, qui pourrait faire en 9h30, sinon 8h, on se retrouve à faire 24 heures de route.
24 heures de route,
donc on
500 kilomètres.
Oui, à cause de l'état des routes et justement les contrôles intempestifs. Donc on a une perte de temps, une perte d'argent et une perte de crédibilité devant les investisseurs locaux et étrangers.
En argent, ça s'est monté à combien les 22 contrôles?
70 francs, on a dépensé 70 000 francs à peu près, parce qu'on ne sait pas combien dépensent les autres. Je l'ai fait pour une étude, justement. Bon.
70 000 francs CFA, c'est-à-dire 110 euros. Hein.
110 euros, voilà. Mmh. Voilà, pour un camion. Mmh.
Voilà. Vous avez fait cette route, pas pour faire du tourisme hein, avec un camionneur, mais pour créer une application Ringus Digital qui permettra plus de transparence.
Oui, Emmanuel, j'ai fait cette étude et beaucoup d'autres justement pour apporter de la transparence au niveau de plusieurs problèmes qu'on rencontre au niveau du transport et de la sécurité routière. Donc, pour remédier justement aux pertes de temps, pertes d'argent et pertes de crédibilité devant les investisseurs locaux et étrangers, j'ai créé Ringus Digital, qui est une plateforme, donc pour moi qui est une réponse fonctionnelle à la problématique de sécurité routière. Ouais. Donc, ma motivation, c'était de contribuer au renforcement des dispositions sur la sécurité routière.
Concrètement, elle sert à quoi, votre application? C'est pour payer des amendes et du coup, éviter le transfert de cash?
Non, concrètement, c'est apporter de la transparence. Les amendes, c'est rien qu'une petite partie, en fait. La plateforme apporte beaucoup de facilité. Ça veut dire qu'effectivement, lors d'un scanning, puisqu'on met à disposition des scans et des nouveaux permis de conduire avec des QR codes, lors d'un scan, on peut avoir l'acte de naissance du chauffeur jusqu'à la dernière infraction commise. Ça veut dire, on peut savoir s'il a payé l'infraction vu qu'on met un système de paiement d'infraction via mobile maintenant. Donc, ça évite aussi la perte de temps qu'on rencontre en fait pour payer l'infraction ensuite pour retrouver l'agent de contrôle qui fixe nos documents. Donc, une plateforme qui réunit les assureurs. Je vous écoute.
Oui. Donc, en gros, hein, pour résumer, c'est le numérique pour éviter le cash, hein, grosso modo, et donc le bakchiche, hein, si j'ai bien compris.
C'est le numérique pour apporter de la transparence, pas seulement pour éviter le cash, mais pour apporter de la transparence, donc pour diminuer les contrôles informels, intempestifs, et pour apporter de la transparence, pas seulement sur la route, mais aussi sur l'élaboration des documents de transport, en fait. Je connais pas mal de personnes qui ont acheté, par exemple, un permis de conduire qui a été livré par le ministère du Transport, où on livre les vrais permis de conduire. Voilà. Ma plateforme apporte une clarté dès l'inscription à auto-école, par exemple.
Merci Madeleine de nous avoir appelé de Libreville. Il y a, dans le rapport annuel 2017 de l'Observatoire des pratiques anormales de l'UEMOA, qui a été présenté il y a 6 mois, hein, grosso modo, on a des chiffres aussi à peu près dans le même style que ce qu'évoquait Madeleine, sur les disant que le nombre de postes de contrôle sur les grands corridors reste anormalement élevé. Donc là, on parle pas de la nécessaire pesée des camions. Hein, on parle de toutes les voitures aussi qui sont également arrêtées. Le Dakar-Bissau en Guinée-Bissau à la Palme d'Or, 124 000 francs CFA, ça fait 189 euros pour 900 kilomètres, quoique par rapport à ce que disait Madeleine, là, on pourrait comparer. Bamako, Ouaga, 63 000 francs CFA de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Du racket? Il faut dire quoi, d'ailleurs? Quel mot? C'est 96 euros pour 880 kilomètres. C'est pas du péage, à Makoé.
Ouais. Mais ce qu'on... On appelle ça les paiements illicites, ce que dit l'Observatoire des pratiques anormales en Afrique de l'Ouest. C'est des paiements illicites. C'est pas tant le montant en francs CFA qui est le problème, c'est aussi les arrêts, le temps qu'on perd. Mais je crois qu'il faut quand même pas se tromper. C'est vrai qu'il faut lutter contre ça. Mais quand on prend sur les grands axes, sur ces grands axes, ces grands corridors, le temps que perdent les transporteurs en attendant 2 semaines au port de Lomé ou d'Abidjan, alors que le fret est déjà disponible, c'est plus que le temps qu'il perd en paiement.
Vous voulez dire que les ports sont plus inefficaces que la route.
Voilà, il ne faut pas se tromper, de cible. Oui. Cette cible, c'est vrai, il faut lutter contre les paiements illicites. Si on veut supprimer la surcharge, qui est un élément négatif du dispositif du système des transports, il faut que les transporteurs, les véhicules roulent plus. Il faut que les véhicules fassent 2 ou 3 rotations par mois. Actuellement, ils n'en font qu'un. Et pour faire 2 rotations, il ne faut pas passer 2 semaines d'attente au port pour charger le fret. Oui. Il ne faut pas arriver à Ouaga Inter en passant encore. Le véhicule devient un magasin de stockage parce que le commerçant n'a pas encore le financement pour dédouaner. Donc c'est ça qu'il faut améliorer dans le dispositif de transport.
On en revient au sujet de la vitesse tout à l'heure. Trop souvent, voilà, des investissements sont faits pour dire on va augmenter la vitesse sur le linéaire, alors que le problème du temps de transport, il est dans les points, donc dans les ports ou dans les entre-deux-villes, et c'est là qu'il faut investir.
Alors on peut dire néanmoins que ces sommes qui sont décaissées pour du racket, du bakchiche, sont importantes, mais est-ce que de toute façon, il ne faut pas que la route devienne payante ? Est-ce que c'est viable d'imaginer une route complètement gratuite ou pas ? D'ailleurs, quelle est votre position, Jérôme Lombard, en tant que chercheur là-dessus ?
Non, l'offre de transport par route, c'est quand même globalement c'est considéré quand même comme une offre publique. Hein. Donc on peut pas considérer que toutes les routes doivent être payantes, sauf sur certains tronçons. Parce que là, d'une certaine façon,
l'autoroute est payante. Hein.
Oui, pas partout quand même. Hein. Pas partout. L'Allemagne est un pays qui fonctionne plutôt pas mal et les autoroutes a priori sont pas payantes.
Mais il y a des péages actuellement sur ces grands axes en Afrique.
Il faut faire attention parce qu'il faut trouver un équilibre entre faire payer la route pour avoir de l'entretien et en même temps que tout le monde puisse circuler. Vous voyez, il faut trouver un équilibre.
Les routiers disent si on a plus de contrôle, on aura plus d'amendes et ça risque d'augmenter le coût du transport de marchandises et donc ça risque d'augmenter les prix à la consommation. Vrai ou pas, Jérôme Lombard?
Augmenter les prix de transport, ce serait peut-être pas si mal. Le problème, c'est qu'effectivement, les États, depuis une trentaine d'années, privilégient les consommateurs urbains. Donc, ils font tout pour baisser les prix à la consommation en ville. Et donc, in fine, c'est sans doute les transporteurs qui payent et c'est sans doute, enfin, qui en pâtissent. Et c'est sans doute d'ailleurs aussi les agricultures qui en pâtissent, hein, les filières, etc. Donc, il y a un problème là.
Quelle est la solution? Si on augmente le contrôle des poids lourds pour qu'ils détériorent moins les routes, parce qu'au bout d'un moment, quand on met des amendes, si vraiment il y a des amendes sévères et non plus de l'arrangement ou du bakchiche, on peut imaginer que effectivement ça serait efficace, mais ça va augmenter le prix des transports qui est déjà énorme, notamment pour les pays enclavés.
Attention, hein, ce que disait Madeleine là, au téléphone, hein, c'est quand même qu'il y a une partie des contrôles qui sont légitimes. Hein. Partie des contrôles, contrôler les chauffeurs qui sont en infraction, contrôler les véhicules qui sont en très mauvais état, et à ma couille, à ma gauche, c'est très bien qu'il y a une partie des véhicules qui roulent qui sont en mauvais état. Donc une partie des contrôles est quand même assez légitime.
Est-ce que ces entreprises de transport ont les moyens d'avoir des camions en meilleur état, de moins les surcharger? Est-ce que c'est possible?
Ah ouais, c'est possible si on prend le problème de façon globale. C'est ce que je disais, on ne peut pas traiter un aspect du problème. Même aujourd'hui, si on donne un véhicule neuf au transporteur et qu'il continue à fonctionner comme il fonctionne actuellement, ça ne va pas marcher.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Tiens, notamment si vous êtes transporteur, hein, chauffeur routier, on veut bien avoir votre point de vue. Le message WhatsApp d'un voisin au Congo en RDC.
Bonjour, cette mère des voisins, c'est Olivier Kisobé. Depuis Bukavu, nos routes sont tellement délabrées. Vous savez, même la route qui va vers les cimetières, elle est tellement délabrée que je suis sûr que les morts, là, maintenant, peuvent se retourner dans leur tombe à cause de cela. Mais aussi, vous savez, nos routes, à cause de leur délabrement, il n'y a plus de code de route, on ne respecte plus rien. Moi-même, j'ai été victime un jour, à 11 ans, j'ai eu un accident de voiture. Mais ça va aller. C'est juste à dire que les routes en Afrique ne sont pas vraiment des routes. Je peux dire que nous avons encore des pistes, comme à l'époque coloniale. Mais j'espère que les choses vont changer dans mon pays, la République démocratique du Congo. Merci.
Merci à vous pour ce message, Olivier. Principale cause de décès chez les 15-29 ans, la route tue plus que le sida, la tuberculose, les maladies diarrhéiques, y compris d'ailleurs dans des pays où l'aéroroute sont en relativement bon état, comme le Sénégal, où il y a 500 personnes qui meurent chaque année d'accidents de la route. Alors finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour la sécurité routière? C'est l'autre point noir des routes.
Sensibilisation. Au Sénégal, vous parlez du Sénégal, au début des années 2000, sous le président Ouad, il y a eu une énorme campagne de sensibilisation, puis qui s'est un peu atténuée avec le temps. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins.
J'ajouterais sensibilisation des usagers, mais des gouvernements aussi. Le continent africain, c'est 700 morts par jour, hein, je dis bien, sur les routes. Et la sécurité routière, c'est pas juste l'infrastructure routière. Hein, c'est cinq choses, généralement, on dit très vite. C'est l'infrastructure, les véhicules, le comportement des usagers, effectivement, tout ce qui est législation, contrôle, on en revient au contrôle, et puis tout ce qui est système de soins post-accident. Donc, n'agir que sur un des paramètres sur les cinq ne fait pas avancer les choses. Aujourd'hui, nous, par exemple, bailleurs de fonds, on est très, 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 très peu sollicité, pour voir pas du tout aujourd'hui par les gouvernements pour investir sur cette question. Donc la sensibilisation, c'est aussi celle des gouvernements.
Vous avez monté un observatoire de la sécurité routière.
Pas l'AFD, mais un observatoire est en train d'être créé. L'AFD entend y contribuer financièrement. C'est le premier maillon de la chaîne. C'est recueillir sur un temps long des données fiables sur les accidents sur la route pour déceler des points noirs et ensuite agir.
Et donc c'est à la fois fondamental. Sensibiliser les gouvernements, voilà, c'est-à-dire qu'il vous faut des données pour sensibiliser les gouvernements fois... et qu'ils vous sollicitent ensuite.
C'est à la fois fondamental d'avoir ces données, mais je le dis aussi, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Une fois qu'on a les données, il faut évidemment ensuite agir. Sur ce sujet sensibilisation, j'ajouterais une chose. Peu de gouvernements aujourd'hui, voire pas du tout, sont enclins à s'endetter, puisqu'encore une fois, nous, on consent surtout des prêts sur ce sujet. Alors que pourtant, dans la plupart des pays en développement, c'est 5% du PIB, ce que ça leur coûte. La mortalité routière chaque année. Et je pense que ça, c'est un message à délivrer. Oui, vous devez consentir de gros investissements sur les cinq piliers que j'ai évoqués tout à l'heure pour améliorer la sécurité routière. Avec ça, vous récupérez des points de croissance.
Est-ce qu'il y a...
Au-delà des éléments de santé et sociaux, hein, bien évidemment.
L'IRD soutient un observatoire comme ça, Ouagadougou, en interne à Ouaga.
Il nous reste vraiment quelques minutes avant la fin de l'émission, ce sera le mot de la conclusion. Mais est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui, un particulièrement bon élève sur les constructions de routes, les infrastructures, l'entretien, etc. On a beaucoup dit que l'Éthiopie, par exemple, avait vraiment décollé dans son réseau routier. Est-ce que vous pensez à un pays modèle ou pas?
Avec l'aide des Chinois, d'ailleurs, l'Éthiopie.
Avec l'aide des Chinois, dites-vous. Oui. Mais Jérôme Lombard, Stéphane Carcas, à Makoé, à Doléoumé, ça sera le mot de la fin. Votre conclusion, est-ce qu'il y a un pays qui peut servir de modèle pour le reste du continent ou ça serait trop simple à Makoé?
Ça serait vraiment trop simple de dire un pays qui sert de modèle aux autres. Mais il y a différents points sur lesquels les pays peuvent se développer et avancer. Et il ne faut pas se tromper. Je voulais revenir sur la qualité de l'infrastructure. C'est le paradoxe des transports. Parce que l'infrastructure est bonne, on aura plus d'accidents et des accidents graves.
Parce que les voitures roulent. Parce que les véhicules roulent.
Donc c'est pour ça qu'il faut agir sur les différents éléments, la sensibilisation, les usagers, le comportement des gens.
Jérôme Lombard, un mot de conclusion.
Si vous vouliez des exemples, le Sénégal a un beau réseau. On a oublié le Maghreb. Hein. Le réseau du Maghreb et Maroc, par exemple. L'Afrique du Sud aussi. Au Kenya aussi un petit peu, donc je pense qu'en fait chaque pays peut emprunter peut-être aux voisins
des bonnes pratiques. Stéphane Carcas, le mot de la fin.
C'est pas 7 milliards de voisins, c'est 53 voisins pour chaque pays. Non, je donnerai pas de satisfecit à un pays en particulier. Pour moi, le mot de la fin, encore une fois, c'est les mots priorité. Prioriser vos investissements et sensibiliser, enfin on est prêt à vous sensibiliser sur la sécurité routière et à vous accompagner là-dessus. Ça me paraît un enjeu majeur pour les décennies à venir.
Eh bien merci à vous tous, Jérôme Lombard de l'IRD, Stéphane Carcas de l'Agence française de développement. Merci à vous, à Makoé, à Doléoumé du Citras. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont posté des messages très, très nombreux, qui nous ont appelés également au standard. Et demain, 7 milliards de voisins, on se détend. L'émission rediffusée est consacrée à l'art de la paresse. Très, très mal vue dans nos sociétés de la performance, de l'hyperactivité. Alors, y a-t-il une bonne et une mauvaise paresse? Oisif, rêveur, glandouilleur du monde entier, vous avez la parole, en toute légitimité cette fois. À demain les voisins et les voisines.